7h50. Vous êtes à l'écoute de Rage Against le matin. Jeff Fortin, remplacement de Rage avec Spicy P, Pascal CV qui est de retour ce matin avec nous et Max Larouche. Max, qu'est-ce qui se passe sur nos routes? Étienne Grandmont nous disait la semaine dernière qu'il n'y en avait pas de trafic. C'est vrai?
Non, on se souvient qu'il nous avait dit en fait qu'il n'y en avait pas tous les jours.
Ouais.
Depuis qu'il est passé.
Il y en a tout le temps.
Il y en a eu tous les jours, surtout avec la fermeture du pont de Québec en fin de semaine.
Je comprends pas.
Pas une prédiction bien juste d'Étienne Grandmont qui vise autant dans le mille que moi avec mes prédictions NFL depuis le début de la saison. Secteur des ponts, donc, pour accéder au pont Pierre-Laporte, direction nord. Par la 73, ça commence à ralentir à peu près à l'avenue de la Rotonde. La 20 Est, c'est un matin qui est difficile. 20 Ouest aussi, là, particulièrement, dans le coin de Taniata. Puis ça commence à ralentir, je vous dirais, à mi-chemin entre Taniata et le chemin des îles, pas mal. Sinon, pont de Québec en passant, il y a aussi du rouge là, dans ce coin-là. Capitale-Ouest, entre l'avenue du Bourg-Royal et Laurentienne, c'est au ralenti. Robert-Bourassa, direction sud, vers le boulevard Le Bourgneuf aussi. Henri IV, direction sud, c'est pas si pire que ça, mais quand même ralentissement entre Route-Sainte-Geneviève et Chauveau-Ouest. La 40, direction est, une petite grenaille de ralentissement un petit peu après Duplessis, mais c'est vraiment pas catastrophique. Ça fait pas mal le tour.
Météo, bien fort simple. Aujourd'hui, très belle journée, 20 degrés prévus au maximum cet après-midi. Cette nuit, c'est dégagé avec un 10 degrés. Demain, mardi, ciel variable, 19 degrés. Mercredi, un peu de pluie, 19 degrés. Et on revient avec le beau temps, jeudi et 20 degrés. Donc, on a le plaisir d'avoir avec nous, comme on le disait avant la pause, notre chroniqueur en éducation, Sylvain Dancause. On va commencer par parler du fameux roi de la montagne dans nos cours d'école. Sylvain, comment ça va?
Ça va super bien, merci. Vous autres aussi?
Ben oui, ça va bien. Le ministre Drainville veut ramener le roi de la montagne dans les cours d'école. C'est une bonne idée, ça?
Ben oui, c'est une bonne idée. Tu sais, ça reprend l'histoire du début pour les gens qui nous écoutent. Là, oui. Il a fait beau en fin de semaine, fait que des fois, on est un peu décroché des nouvelles de ce qui se passe un peu partout. T'sais, en éducation, bon, il y avait une série d'articles là, intéressants là, dans la presse de samedi matin, un dossier de 3 articles. Tu avais un article qui parlait des codes de vie dans nos écoles primaires. Là, l'équipe de la presse avait été examinée à peu près le 25% des écoles primaires au Québec. C'est quand même de l'ouvrage là, d'aller lire ces codes de vie-là. Puis Max a sorti quelques extraits tout à l'heure. Là, je l'écoutais parler avec des affaires qui étaient un peu loufoques. Fait que si vous voulez rire ou pleurer, ça dépend du point de vue, vous pouvez aller lire ce premier article-là.
Un gars d'éducation comme toi, ça rit ou ça pleure?
Ben, ça rit et ça pleure.
Ça rit genre, j'ai l'impression pour le connaître. Là.
Un peu des deux. Le deuxième article était sur les bienfaits du jeu risqué. Puis ça, on pourrait y revenir aussi parce que ça avait fait couler beaucoup d'encre en janvier dernier. Puis il y avait un troisième article sur les solutions possibles que j'ai trouvé un peu plus ordinaire. Je trouvais qu'on n'allait pas chercher des éléments si importants que ça. Mais c'est un dossier qui va rester d'actualité encore pendant plusieurs mois, peut-être même plusieurs années. Fait que j'invite les gens à aller le lire. Puis évidemment, ça, c'est sorti vers 5-6 heures le matin, samedi matin. Et au même moment, tu avais le colloque de la CAQ à Saint-Hyacinthe et Bernard Drainville y était. Puis c'est évidemment beaucoup de journalistes qui étaient présents. Puis ça n'a pas été trop long qu'on l'a trouvé puis on lui a posé des questions là, sur le dossier de la presse avec le jeu risqué. Et M. Drainville est toujours partant pour nous raconter toutes sortes d'histoires.
Pour parler,
oui! Ben, il aime ça jaser. C'est un bon personnage. Là, tu vois que le gars fait de la radio pendant de longues années.
Oh oui.
Puis c'est là qu'est sorti le deuxième article, si tu veux, la réaction à... Ça s'est passé vite. Là. Il était rendu 11h30 midi samedi matin. Puis on avait déjà un article avec la réaction de Bernard Drainville là, qui nous parlait du bon vieux temps où est-ce qu'on jouait au roi de la montagne. Là. Alors voilà pour la séquence. Tu sais, les règles de vie qu'on lisait dans l'article, c'est normal de réagir un peu. Là, des fois, j'écoutais Max tantôt là, avec certains exemples qui étaient un peu loufoques. Là, comme
chasser des insectes.
Chasser des insectes. Bon, des choses comme ça. Puis... C'est sûr que je suis d'accord avec Bernard Drainville dans le sens où il y a un équilibre à aller chercher. Mais tu sais, c'est facile d'aller dire, tu sais, quand M. Drainville dit ben, « il faut apprendre à gérer le risque », tu sais, là, après ça, tu dis « ouais, mais de quel risque tu parles? Est-ce que tu parles du risque pour les enfants? Il faut que les enfants apprennent à gérer le risque. » Ben oui, c'est sûr, là, puis on en reparlera tout à l'heure, là, mais tu sais, du jeu risqué. T'sais, c'est prouvé que c'est bénéfique, le jeu risqué, tu sais, pour la gestion des émotions, l'estime de soi, les habiletés sociales, la santé, les compétences physiques, l'anxiété, l'attention en classe. Fait que, tu sais, name it, là, il y a plein de bonnes raisons de faire des jeux risqués. Un jeu risqué, c'est quoi? C'est Bon, ça peut être grimper, sauter, glisser, courir, faire de la lutte, du tiraillage comme Pascal
chamailler.
Parlait. Chamailler. C'est des jeux libres. Fait que c'est pas nécessairement organisé, donc c'est libre. Puis il y a c'est ça où est-ce que ça accroche, là? Ça comporte une possibilité de blessure. Fait que là, c'est là que tu vois que quand on parle de la gestion du risque, ben ça se peut qu'un jeune se blesse. T'sais? Puis là, on est dans une société où on essaie de prévenir, ou à l'école, on essaie de prévenir toutes les blessures. Mm-hmm. Là, c'est, est-ce qu'on veut prévenir toutes les blessures ou on veut prévenir les blessures graves?
Pis mais c'est... là, ouais. Sylvain, je t'écoute. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi que prévenir des blessures dans l'immédiat, dans le présent, mais aussi engendrer, engranger un courant de blessures mentales et physiques pour la suite si tu n'as jamais eu à prendre ces risques-là dans un âge adulte? Est-ce que vous comprenez bien mon parallèle?
Oui, bien,
à force d'être dans Watt, est-ce qu'on ne crée pas justement une boîte pleine de clous pour la suite des choses? Et où la limite de?
Bien, c'est ça, quand je parlais de risque tantôt, tu vois, là, c'est que les écoles sont très frileuses parce qu'il y a toujours le risque de poursuite. C'est quand on parle de risque tantôt,
c'est
le
ce
risque...
que j'allais dire. Y a-tu des risques qu'un parent dit « je te poursuis parce que mon enfant s'est cassé le bras ».
C'est plus ça le risque qui fait peur finalement.
Ben
c'est
oui.
Même pas l'enfant qui pourrait se blesser qui fait peur.
Moi, je pense que le plus grand risque, quand Bernard Drainville nous parle de « faut apprendre à gérer les risques », peut-être que lui parlait du risque des enfants. Les parents, faut pas avoir peur pour ses enfants. Donc ça se peut que il donnait l'exemple du roi de la montagne. Bon, on tombe, on se bouscule, on peut se faire mal. Bon, je me suis déjà moi-même fait mal, bon, c'est ça qu'il nous expliquait. Bien, il a tout à fait raison, tu sais. Mais après ça, c'est OK, mais quand t'es dans un milieu comme une école, bien là, gérer le risque aussi, bien là, on va tout de suite te parler d'avocat, de poursuite, de... Bon, fait que tu vois... Là,
d'assurance
c'est...
qui vont
d'assurance, augmenter. Bon, voilà. Fait que là, tu sais, c'est tout ça. Puis on l'a peut-être oublié, mais tu sais, les pédiatres étaient sortis l'année passée, en janvier, puis on en avait parlé, tu sais, puis c'était une excellente sortie tant qu'à moi qui disait, tu sais, oui, il y a le risque de blessure, mais il y a aussi le besoin des enfants. Puis en termes de coûts-bénéfices, ben ça nous coûte pas mal plus de les empêcher de faire des jeux risqués que de pas le faire, tu sais. Fait que c'était un peu ça qui était sorti, puis... En février, ça c'est en janvier, en février, on l'a peut-être oublié, là, Centre de services scolaires des Monts et Marais, Bas-Saint-Laurent, le CSS avait fermé tous les modules de jeu sur son territoire.
C'est vrai.
1400 élèves, une vingtaine d'écoles primaires. Pourquoi? Il y a eu un incident. Il y a eu une plainte. Pas 10, pas 100, pas 50.
Aucun
une plainte. Qui s'est rendu probablement qui a passé entre les mains d'une direction où est-ce qu'il y a eu cet incident-là, qui est allé au CSS, qui est allé au protecteur de l'élève, puis qu'est-ce qu'on a fait pour, en attendant que ça se règle, on a dit, ben just too bad, on ferme les modules de jeu, tu vois. Ouais. Bon, c'était peut-être extrême du centre de service scolaire, mais on est tellement frileux, on a tellement peur...
De la poursuite,
que, tu sais, un CSS a fermé tous ses modules de jeu sur un territoire. Ça, c'est en février, je te rappelle que l'article des pédiatres, la sortie des pédiatres, c'était en janvier. Fait qu'un mois plus tard, c'est ça qui se passait. Fait que je suis pas sûr que le message avait si bien passé que ça de la part des pédiatres, tu comprends?
Non, c'est ça.
Là, on y revient. Fait que là, c'est janvier, février, là, on y revient cette année. Là, on est au mois de septembre, fin septembre. Puis là, on en rejase encore. Puis je pense que c'est important d'en jaser, tu sais. Mais faut pas, moi, je pense qu'il ne faut pas avoir peur des poursuites. Je pense qu'à un moment donné, la dictature de la minorité, tu sais, il faut que ça s'arrête en quelque part. Là. Puis où est-ce
J'aime
que ça
ce
s'arrête
que
pour le bienfait des enfants? Puis qu'est-ce qu'on sait? Puis ça, c'est unanime. Ce n'est pas deux, trois pédiatres sur le coin d'une plage en quelque part qui jasaient ensemble puis qui ont décidé que. Là. Je veux dire, la littérature le dit, les pédiatres sont sortis pour le dire.
Tu vois
on
la
constate
différence
les effets.
Générationnelle aussi.
Ben oui.
Tu la vois. Tu la vois au niveau mental, cognitif et surtout dans la motricité. C'est quelque chose qui est criant, qui est difficile, qui est constaté. Où est-ce qu'on s'en va pour la suite des choses? Je comprends la robotique, l'intelligence artificielle, mais honnêtement, la différence est flagrante. En plus, arrive avec ça, puis arrime avec ça l'arrivée des réseaux sociaux, de tous les écrans, qui est une autre problématique à tout ça. Là.
Ben, tu sais, juste le fait d'être en forme et en santé, tu sais, la littératie physique... Puis ça, Joël Beaulieu, peut-être quelqu'un avec qui vous avez déjà jasé, que moi je connais très bien, qui défend le jeu risqué, qui défend le jeu libre, la motricité, qui dirait que... Puis on le disait aussi dans l'article, là, dans l'article, puis Joël Beaulieu me dit ça depuis des années, les habiletés motrices des enfants de 10, 12, 14 ans aujourd'hui sont inférieures aux habiletés motrices des jeunes de 7, 8 ans d'il y a 30 ans. T'sais. Puis ça, lui, il le constate sur le terrain.
Ouais.
Puis on parle d'un système de santé qui est surchargé. Bien, quand tu parles de littératie physique, plus tu vas faire de sport, plus tu vas être habile dans différents sports, plus tu auras tendance à faire du sport en vieillissant. Fait que, tu sais, tout ça est lié. Là, on parle d'éducation, on parle d'activité physique, on parle d'un système de santé qui est surchargé. Il y a des liens à faire entre tout ça, là, tu sais.
Clairement. Pour ceux qui viennent de se joindre à nous, on discute avec notre chroniqueur en éducation, Sylvain Dancause, à propos de la possibilité, justement, du retour de jeux à risque, notamment le roi de la montagne dans les cours d'école. Sylvain, tantôt, tu as piqué ma curiosité. Tu disais, on calcule le coût par rapport au risque, mais on ne calcule pas le coût que toutes les règles qu'on fait donne dans le service scolaire. Puis là, moi, j'ai allumé en disant « Ouais, ils sont pas même pas nos petits gars, là, puis là, je vais le dire comme ça, là, de se défouler dans le cours d'école, là. Ben, ça doit être des TES de plus, puis des enseignants qui ont de la misère à gérer la classe parce que les jeunes sont trop énergiques, donc des arrêts de travail. » C'est ça que tu voulais dire quand tu parlais de coûts?
Ben, ça peut être ça. Donc ça, c'est une des hypothèses. Tu sais, des fois aussi, on associe ça à des coûts. Ben, il faudrait que j'engage plus de gens pour surveiller les jeunes dans la cour d'école parce qu'il y a plus
c'est
de
vrai.
Risques. Mais là, est-ce que les jeunes doivent être surveillés, tu sais, à tout moment dans la cour d'école? T'sais, à un moment donné, on n'est pas à la maison. Tu sais, toi, quand tu es avec tes enfants puis tu décides d'aller au parc quand ils sont petits, ben oui, tu es surveillé. Puis tu en as un devant toi, deux devant toi ou trois devant toi parce que tu es là puis tu es surveillé puis tu gères le risque de tes enfants, tu sais. Mais dans une cour d'école, je veux dire, ça pourra pas être ça. Là. C'est impossible. Ouais. Fait que là, à un moment donné, c'est quoi le ratio qui est normal ou qui est correct? T'sais, c'est-tu 1 pour 20? C'est-tu 1 pour 50? Ouais. 1 pour 100? Puis là, à un moment donné, bon, on est understaff, on manque de staff. Ben, je veux dire, là, à un moment donné, il faut se dire, ben, est-ce que c'est vraiment nécessaire qu'il y ait une éducatrice ou un prof tout le temps, en tout temps, en train de surveiller tous les jeunes de la cour d'école? À un moment donné, il faut prendre notre gaz égal. Là,
c'est oui. La question, puis c'est beaucoup de commentaires au 88-971-1021 par rapport à ça. Entre autres, un prof d'éducation physique qui nous écrit jeu avec un risque encadré, oui, à 100%. Mais le roi de la montagne à la récréation, c'est qu'on est rendu avec de moins en moins de surveillants, 4 surveillants pour la cour d'école
exact.
Au complet. Je trouve que c'est un petit peu moins adéquat dans ce cas-ci. Mais je suis prof d'éduc au primaire et je fais de la lutte, du judo. Je veux que ce soit encore et je veux que ce soit poussé aussi, ce type de pratique-là. Là, pour cet auditeur-là, c'est quelque chose qui
revient. Super commentaire.
Sylvain, on change de sujet d'actualité parce que je veux absolument parler avec toi. C'est sorti vendredi dernier, les fameuses classes modulaires.
Ouais.
Puis là, on parle de Charlebourg et Beauport. 67 nouvelles demandes. Ça porterait le total à 100. Puis pendant ce temps-là, il n'y a pas de nouvelle école primaire, nouvelle école secondaire à Beauport, mais on continue à mettre des classes modulaires. Coudonc, on va-tu en arriver avec des classes modulaires permanentes dans nos écoles, puis ici, là, dans la région de Québec? Là?
Bien, c'est une bonne question. Tu vois, moi, j'ai lu l'article de Daphné Dionvien du Journal de Québec la semaine passée. Fait que je l'ai appris en même temps, comme employé, j'ai appris qu'il y aurait des modulaires à mon école. Comme parent, j'ai appris qu'il y aurait des modulaires peut-être à la nouvelle école du Fort. Pour les gens qui nous écoutent, c'est le site de l'ancien.
Mais on vient de la construire.
Ben oui, ben les jeunes viennent de rentrer là,
cette
en
année,
septembre,
là.
Viennent de rentrer, puis on fait une demande de modulaire pour l'école du Fort qui est située sur les terrains de l'ancien zoo de Québec. Là. Moi, j'aimerais ça. En tout cas, tu sais, je veux dire, c'est sûr que là, c'est le parent citoyen qui parle.
Ben oui, vas-y.
Mais moi, j'ai beaucoup de questions puis j'ai pas beaucoup de réponses. Puis je pense qu'il y a un travail journalistique à aller faire dans ce dossier-là. Puis probablement que si ça se passe ici, ça doit sûrement se passer dans d'autres centres de services scolaires au Québec, compte tenu du contexte actuel où il manque beaucoup de locaux dans plusieurs endroits. Là, la situation ici n'est pas exceptionnelle. Là, je veux
non,
dire,
non, non.
Elle est peut-être pire parce qu'on a entendu parler récemment.
Lévis dans le secteur Saint-Nicolas, Saint-Apollinaire, ça
fait.
Manque de locaux. Là.
Tout à fait. Mais tu sais, si je pars de la polyvalente de Charlebourg, qui est, mettons, la polyvalente la plus au sud dans le secteur Charlebourg, et je monte ensuite, il y a l'école Les Sentiers, qui est une polyvalente aussi quelques kilomètres plus loin. Ensuite de ça, il y a l'école sur l'ancien site du zoo qui est flambant neuf, qui vient d'ouvrir en septembre. Et un peu plus au nord, celle qui est le plus au nord, peut-être dans le coin de la sortie du lac Beauport, tu as l'école Le Sommet.
Oui.
Donc, tu vois que sur à peu près 10-12 kilomètres, il y a 4 écoles
secondaires
dans l'arrondissement Charlebourg. Il y avait des modulaires au Sommet. Il y avait des modulaires au Sentier.
À la poly aussi.
Il y avait des modulaires à la polyvalente. Et tu iras faire un tour dans ces trois écoles-là.
Il n'y en a plus.
Il n'y en a plus. Comment ça se fait qu'on a démonté les modulaires? Là, je sais qu'il y a, il y a toutes sortes d'histoires avec le ministère de l'Éducation. Je sais que des fois, maintenant, on les achète. À une époque, on les louait au ministère de l'Éducation. Quelle était la nature du contrat? Qu'est-ce que ça disait? Est-ce qu'on était obligé de les démanteler parce que le contrat était fini et les modulaires partaient pour une autre école? Est-ce qu'on aurait pu prolonger le contrat? Parce que là, on a défait des modulaires. Puis quand je lis le journal, ben, on redemande des modulaires sur le même territoire. Tu comprends?
Ça fait comme pas de sens.
Ben, en tout cas, moi, j'essaie de comprendre, puis je jette pas la pierre à personne.
Non.
Mais il y a quelqu'un qu'il faudrait qu'il me réponde. Tu sais, c'est-tu le ministère de l'Éducation? C'est-tu parce que les règles budgétaires sont tellement strictes et rigides, si on en parle souvent, que ben, le CSS est obligé de démonter les modulaires à ce prix puis en demander d'autres? Ou le CSS a mal évalué le territoire, ou le contrat de location était achevé, on n'a pas pu prolonger le contrat, mais pourquoi le ministère n'a pas voulu prolonger, ça c'est une autre histoire. Parce que là, on défait du stock, puis on veut en construire. Puis là, c'est de l'argent, premièrement, c'est du cash en tabarnouche, puis en plus, c'est du temps, parce que ça se monte pas en trois semaines, ça, ces modulaires-là.
Puis en même temps,
avec
construit...
un syndicat derrière aussi, le temps que ça va exactement. Prendre pour monter. Là.
Puis en même temps, construire une nouvelle école, mais ça a l'air qu'on n'est pas capable de calculer le besoin de cette nouvelle école-là, parce qu'on va y mettre dessus des modulaires. Fait que pour moi, ça fait pas de sens construire une école plus grande.
Ben, mais ça vient d'où? Mettons, on est capable d'habitude là, d'évaluer le nombre d'élèves qu'on va avoir dans des écoles. On est capable, avec le contexte générationnel puis le nombre d'enfants qui ont été faits au Québec, on sait exactement il y en a combien qui sont nés sur... C'est-tu un contexte d'immigration, comme on en a parlé dans les dernières semaines, qui a fait en sorte qu'on n'a pas été capable de... bien calculer le nombre d'enfants qu'on aurait? Est-ce que c'est encore du laxisme au courant des dernières années dans le montage d'écoles, de classes? Est-ce qu'on n'a pas vu le boom d'enfants qui a été fait il y a quelques années? Sylvain, toi, tu dois être au courant un peu de
Moi, je suis au courant que mes enfants sont nés en 2007, en 2010, puis en 2009.
2007 et 2009, moi. Fait que je suis au courant qu'il y a un
probablement
boom,
quelque part, c'est dans un registre quelconque, c'est insensé. Mais tu sais, on a beaucoup de questions ce matin, puis on n'a pas beaucoup de réponses. Moi, de temps en temps, je trouve que ça manque un peu de transparence, autant dans l'organisation scolaire des CSS que dans l'organisation puis de ce qui se trame entre le ministère de l'Éducation et les CSS. On n'a pas beaucoup d'informations. Puis tu sais, avec la loi 23 qui est passée, le projet de loi de Bernard Drainville, il y a quelques temps, ben, les DG de CSS, en tout cas, vous essayerez de leur parler si vous voulez, là, il y en a peut-être un qui va accepter, mais on marche sur des œufs parce que c'est le ministre qui a le pouvoir de vie ou de mort sur les DG de CSS.
Ce qui n'était pas le cas auparavant.
C'est
le pouvoir que la CAQ s'est donné quand on voulait avoir de moins en moins de mains dans tout ça.
Exact. Fait que là, puis même affaire là, sur les conseils d'administration des centres de services scolaires, la seule personne qui est autorisée à parler, c'est le directeur général du centre de service scolaire. Il n'y a personne d'autre qui est autorisé à parler aux médias de par le projet de loi. Celui-là, c'est de la loi 40 de Jean-François Robert.
Mais ma question paraît peut-être un peu niaiseuse, mais mettons qu'on recule d'il y a 20 ans. Là. On sait exactement combien d'enfants sont nés. Okay? Au Québec, on a fait on a comptabilisé le tout. On est capable alors de savoir, puisque en plus l'école est un droit, là, c'est nécessaire au Québec d'y aller et obligatoire. On est capable de savoir ces enfants-là auront l'âge d'être au primaire en quelle année et auront l'âge d'être au secondaire en quelle année, auront l'âge d'être en continuant comme ça. On n'aurait pas pu travailler en amont pour s'assurer d'avoir un nombre de classes. Moi, le seul moment où je comprends qu'il y a peut-être une difficulté d'arrimer le nombre d'élèves avec de classes, c'est avec l'arrivée d'immigration. T'sais, c'est pas toujours facile de savoir exactement qui veut venir s'installer ici et combien on va en accueillir. Pour nous ici, pour les gens qui sont nés ici, il me semble que ça semble être un problème comme en santé on a eu, soit un manque de travail en amont.
Bien, il y a beaucoup d'éléments dans ce que tu dis, puis il y a beaucoup d'éléments de réponse, puis il y a beaucoup d'éléments pour lesquels je n'ai pas de réponse. Comme je te dis, il y a un travail journalistique à faire là-dessus. Mais tu sais, il y a eu une baisse démographique là, au secondaire. Là, il y a une certaine époque où les écoles secondaires étaient en baisse de clientèle. Ça va, Pascal?
Ça
sauve une petite bière à matin. C'est bon, c'est bon.
Yes.
Mais tout ça pour dire, j'en étais rendu, moi, là. Ouais, c'est ça.
Ouais. T'as été déconcentré.
Ouais, c'est ça. Ben, une petite bière à matin, c'est sûr que ça me perturbe un peu quand même. Mais tout ça pour dire qu'il y a eu une baisse. Puis, à ce moment-là, tu sais, les écoles, il y a de l'espace. Ben, on va faire un vestiaire de football supplémentaire. Il y a de l'espace. On va faire un café étudiant. Il y a de l'espace. Puis là, à un moment donné, ben là, ça a commencé à réaugmenter à cause des naissances. Fait que le boom du primaire est arrivé au secondaire. Mm. Fait que là, le vestiaire de football, on va le défaire. Ah, ben le local de repos, on va le prendre, on va faire une classe. Tu vois, puis là, à un moment donné, au ministère, c'est très rigide, là, c'est des pieds carrés. Moi, je me rappelle là, que la nouvelle école, là, le CSS, là, ça fait des années qu'ils demandaient une nouvelle école. Mais selon les calculs très rigides du ministère, c'est dans telle école, vous avez encore de la place. On n'a pas de place.
Des pieds carrés.
C'est des pieds carrés, c'est ça. C'est exactement. C'est un calcul aussi bête et insignifiant que ça. C'est des pieds carrés. Fait que tout ça pour dire que ben ça arrive pas. Puis là, ben là, tu fais une demande, ça, c'est rejeté une fois, deux fois, trois fois. OK, ben là, on va la faire. Mais là, le temps qu'elle se construise, fait que là, il y a un délai de 5, 6, 7 ans. Puis on se ramasse avec des situations comme ça. Fait que je pense que au ministère, des fois, si on est très rigide sur les constructions. Là.
Chose certaine, on va avoir la chance de s'en reparler parce que ça va toujours rester dans l'actualité, ces fameuses classes modulaires et ces nouvelles écoles qui sont en demande un peu partout. Sylvain Dancausse, merci beaucoup d'être passé avec nous ce matin.
Merci à vous, n'importe quand, pour la petite frette avec Pascal.
Yes! On est déjà dans la troisième heure de l'émission. Puis là, attachez vos trucs parce que ça va brasser. Le porte-parole en mobilité pour le Parti libéral du Québec, le très coloré Monsef Déragie va être avec nous pour nous parler tramway. Pascal CV nous a également planifié une excellente entrevue pour nous présenter la nouvelle clinique ambulatoire en soins palliatifs de la maison Michel Sarrazin. Et c'est la semaine de grand déménagement de la Bouchée généreuse. Marie-Pierre Gravel, la DG adjointe, va être avec nous. Restez là, on revient immédiatement après cette courte pause.
On s'arrête 2-3 minutes pour reprendre notre souffle dans Rage Against le matin. 102-1.
Les meilleures saveurs italiennes sont chez Pacini. Grâce à leurs multiples espaces lounge et salons privés, Pacini est l'endroit idéal pour bien manger dans une ambiance magnifique en compagnie de vos proches ou de vos collègues. On vous attend au Pacini Sainte-Foy et Pacini Le Bourgneuf.
Pour Énergir, c'est important de s'unir pour un avenir plus durable. Ça veut dire qu'Énergir travaille à mettre en place plus de solutions, plus responsables pour être plus efficace et émettre moins de gaz à effet de serre. Le but, c'est d'être de plus en plus nombreux à créer et utiliser plus d'énergie renouvelable et ainsi consommer moins d'énergie fossile. Parce que c'est en rassemblant